anglais, c'est quoi? Nothing but the blood of Christ. Yeah,
nothing but the blood of Jesus. OK. Je pense que c'est un cantique du 19e siècle. Non, c'est vrai, j'ai pas juste ça. Un vieux cantique, un bon vieux cantique, puis c'est l'essentiel de l'Évangile, puis comme on va le voir ce soir. Toujours un plaisir, comme le partager aux frères avec qui j'ai prié avant la réunion. Toujours un plaisir, mais un privilège d'être avec vous autres. Puis je l'ai dit à notre frère Jean-Luc, d'ailleurs, s'il y a des plaintes suite à mes invitations, allez voir Jean-Luc. C'est lui qui m'appelle. Donc, c'est toujours un plaisir. Moi, le dimanche soir, évidemment, la grand-mère, on n'a pas de réunion. Puis même dans d'autres occasions, ça me fera plaisir aussi. Mais de voir avec vous ce sujet de la grâce, moi, ça me fait du bien. C'est un sujet que je vois, évidemment, à l'Assemblée de grand-mère, que je vois dans d'autres églises, et ça me fait plaisir de le voir avec vous. Un sujet très important. D'ailleurs, la dernière fois, sans refaire tout le message, dans le fond, l'Évangile de grâce... Rappelez-vous, ceux qui étaient là, il y avait une ligne de vie un petit peu pour ceux qui sont chrétiens. Notre vie se sépare par la croix à un certain moment donné. Il y a avant la croix et après la croix. Et avant la croix, on s'entend tous que tout être humain, c'est quoi son plus grand besoin? C'est d'entendre parler de l'Évangile de grâce. Sauf qu'une fois sauvé, on a l'impression souvent comme chrétien que ce qu'on a de plus important, ce qui est le plus important à entendre parler comme chrétien, c'est tout ce qui touche aux disciplines spirituelles. Tout ce qui touche à la sainteté et tout ce qui touche au service, dans le fond, la formation de disciples, on peut dire. Puis c'est vrai que c'est important comme chrétien que de toucher à ces trois aspects-là, discipline spirituelle, d'avoir un culte personnel, de venir régulièrement aux réunions, de servir dans l'Église, de servir Dieu au quotidien et aussi d'avoir cette poursuite de la sainteté. Ça, c'est tout important. Sauf que souvent, on a cette mauvaise perception comme chrétien que l'Évangile de grâce, c'est pour les incroyants. Et qu'une fois sauvé, ben là, on s'en va avec nos disciplines spirituelles, avec notre formation de disciples, avec notre sainteté, avec notre service. Sauf que c'est une grave erreur parce qu'au bout du compte, on avait besoin d'entendre parler de l'Évangile de grâce avant d'être sauvé. Puis une fois sauvé, on a besoin de se prêcher l'Évangile de grâce au quotidien pour éviter justement que ces disciplines spirituelles, que ce service, que cette recherche de la sanctification ne se fasse dans un légalisme, ne se fasse dans un fardeau dénué de grâce. C'est pour ça que la grâce, c'est tellement important. Puis, c'est pour ça que, depuis le début de cette mini-série-là, je parle toujours de cet exemple d'une bonne journée spirituelle et d'une mauvaise journée spirituelle qu'on connaît tous dans notre vie quotidienne. Hein? Puis lorsque j'oublie la grâce ou l'Évangile de grâce, lorsque je connais une bonne journée spirituelle, je peux me péter les bretelles pour dire « Wow, je suis pas pire comme chrétien alors que j'ai rien à faire là-dedans. » Ou quand j'ai des mauvaises journées spirituelles, de dire, de me surculpabiliser, puis quand j'oublie la grâce de Dieu, bien, oups, ça vient fausser ma perception de la vie chrétienne. Maintenant qu'on a vu que c'est important d'entendre parler de l'Évangile de grâce avant d'être sauvé, que c'est important de se l'apprêcher, cet Évangile de grâce, une fois sauvé, question reste, c'est quoi cet Évangile de grâce? Qu'on a si besoin, que tout être humain sur terre a besoin d'entendre un jour. Et c'est ça que je vous invite à voir ensemble dans un texte extraordinaire. Vous savez, le passage de toute la Bible qui explique le plus clairement et le plus complètement l'Évangile, c'est Romains 3, versets 19 à 26. Et je vous invite à tourner dans ce texte. Romains 3, versets 19 à 26. Et on va prendre le temps de le lire. Puis, merci encore pour la louange. Merci aussi, Maurice, pour ce chant. Et toute l'équipe de louanges, bien appréciée. Romains 3, versets 19 à 26. On va prendre le temps de le lire. Et ce texte-là, quelqu'un a déjà appelé ce passage le cœur de l'Évangile. C'est ce qu'on avait besoin d'entendre avant de devenir chrétien. Une fois chrétien, c'est ce qu'on a aussi besoin de se prêcher chaque jour pour apprendre à vivre de cet Évangile. Et c'est pour ça qu'on a besoin de comprendre Romains 3, 19 à 26. On va le lire. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Un verset qu'on connaît bien, verset 23, « Car tous ont péché Ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui, au verset 25, que Dieu a destiné à être, et là on a le sens du cantique, le dernier cantique qu'on vient de chanter, par son sang. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Évidemment, quand on lit ça d'une traite, là, maintenant, on peut être étourdi un peu, là, mais on va y aller verset par verset et on va voir ensemble c'est quoi cet évangile de grâce qui est si essentiel avant notre conversion, mais aussi après notre conversion. On va relire les versets, puis on les a aussi à l'écran, donc si jamais vous n'avez pas la Bible entre vos mains, vous allez voir les versets. On va relire ces deux versets, versets 19 et 20. Et on a le premier point d'ailleurs, le premier élément de cet évangile de grâce. Personne n'est déclaré juste devant Dieu en observant la loi. C'est un premier point essentiel à savoir. Personne n'est déclaré juste devant Dieu en observant la loi. Verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, il le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Le mot « juste » signifie une conformité exacte et parfaite à la loi de Dieu. Et quand j'utilise ici le terme de la loi de Dieu, je ne fais pas référence spécifiquement à la loi donnée à la nation d'Israël à travers Moïse, mais c'est dans un sens plus général pour référer à tout ce que Dieu, par sa nature sainte, exige comme règle d'obéissance à tout être humain. Et ça inclut donc tous les commandements éthiques qui sont dispersés à travers la Bible. Et c'est pour ça que le standard de l'obéissance requis par la loi est la perfection absolue. Jacques 2,10, sans tourner, va dire « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » On est-tu fait à l'os? Et l'apôtre Paul va dire essentiellement la même chose quand il va écrire ceci dans Galates 3,10, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit. » Dans le livre de la loi, il ne le met pas en pratique. Alors, je faisais un sondage ce soir, qui a la prétention d'observer parfaitement toute la loi? Si je verrais une main, je serais bien découragé. Non, personne ne serait menteuse en partant, donc il viendrait d'être éliminé. On est tous dans la même situation. Tout être humain qui vit au monde est dans la même situation. Personne n'est déclaré juste devant Dieu en observant la loi, c'est impossible. Parce qu'on ne peut pas l'observer parfaitement. Seule l'obéissance parfaite est acceptable à Dieu. Seule l'obéissance parfaite est acceptable à Dieu. Vous savez, je ne veux pas être indiscret, mais il y en a-tu qui se lavent avec du ivogue? Il y en a-tu qui se lavent tout court? Non, pas ça. Non, mais ce que je veux dire, moi, je vous dis ça parce que moi, c'est du Dove. Qu'est-ce que je vous dis? Mais d'ailleurs, ceux qui veulent du ivogue à la fin, là, le fait, si je la laisserai là, vous venez le chercher. Là. Mais le savon ivogue avait comme slogan, puis étonnamment, c'est un vieux slogan, le savon ivogue, puis j'allais en acheter un, devait être en spécial, certain. Mais c'est marqué dessus 99,44% pur. 99,44% pur. Propreté pure. Hey, 99,44%, là, c'est tout un exploit pour du savon, ça. Mais savez-vous que c'est pas assez bon pour Dieu, ça? 99,44% pour aller au ciel, non. Seul 100%, c'est acceptable. Seul 100%, c'est acceptable pour Dieu. Puis pourtant, les gens sont en général confiants que Dieu va les accepter parce qu'ils sont généralement des personnes décentes, ce qu'on appelle des bonnes personnes. Hein? Puis même, comme chrétiens, soit dans notre milieu de travail, soit dans des dans chez nos voisins, nos amis à l'école, il y en a des bonnes personnes quand même. C'est des gens qui sont bien rangés, puis, mais ils ne vont pas plus au ciel pour ça. Parce que le critère pour entrer au ciel, c'est 100% pur. 100% observation de la loi. Alors, c'est bon pour le savon, 99,44, mais pour entrer au ciel, ça prend 100%. Puis en tant que chrétien, on le sait bien qu'on n'aurait jamais pu, à travers notre propre obéissance, atteindre une justice qui soit suffisante pour le salut. C'est impossible. C'est ce qu'on a reconnu sans problème lors de notre conversion. Mais alors, comme croyant, on agit comme si on pouvait tout à coup vivre des vies acceptables à Dieu. Et je reviens avec cette idée de la bonne et de la mauvaise journée. La majorité des croyants interrogés sur le sujet disent s'attendre davantage à la bénédiction de Dieu quand ils connaissent une bonne journée. C'est subtil, c'est dans notre subconscient, on dirait. Tu sais, c'est comme si on croit facilement qu'on est sauvé par grâce, mais une fois qu'on est sauvé, c'est comme si tout à coup on restait sauvé par les œuvres. On reste sauvé par grâce. Par contre, ces mêmes personnes-là qui disent que, bon, il y aura sûrement plus de bénédictions de Dieu la journée qu'ils connaissent une bonne journée spirituelle, ces mêmes personnes-là, aucun d'eux n'affirmerait une obéissance à 100%. Aucun croyant ne serait prêt à mettre en jeu son espérance d'une vie éternelle sur sa performance lors de son meilleur jour spirituel. Tu sais, le matin où tu te lèves, comme je le dis souvent, hein, tu fais ton culte, tu pries, tu évangélises cette journée-là, tu n'as pas de mauvaises pensées, tu n'as pas de mauvaises paroles, tu sais, il va dire, là, tu te penses, là, tu es A1, mais tu n'es jamais A1. Puis à chaque fois qu'on se présente au pas du Seigneur, dimanche après dimanche, on a toujours de quoi confesser quelque part. Puis je suis content parce que le Seigneur nous pardonne. Sur la base de son sang. Rien que le sang de Jésus. Pas sur la base de ma performance, mais sur la base de sa performance qui a accompli parfaitement, une fois pour toutes, il y a 2000 ans. Pourtant, dans notre relation quotidienne avec Dieu, la plupart d'entre nous ne sommes pas différents de cette manière de penser que les incroyants qui pensent qu'ils iront au ciel parce qu'ils ont été assez bons. Alors, pour vivre par la grâce, mes frères et mes sœurs, nous devons nous débarrasser d'une telle manière de penser et de revenir à l'Évangile, où on redit encore une fois que personne n'est déclaré juste devant Dieu en observant la loi. Deuxième élément de cet évangile de grâce, il y a une justice de Dieu, mais sans la loi. Regardez le verset 21. « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. » Puisqu'on ne peut atteindre une justice suffisante par nous-mêmes, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu l'a pourvu pour nous, cette justice. Cette justice de Dieu n'est rien d'autre que la justice parfaite de Jésus-Christ, qui, à travers sa vie sans péché, à travers sa mort en obéissance à la volonté du Père, a accompli parfaitement la loi de Dieu. Ce qui fait que la justice, qui est un don de Dieu, est une vraie justice, vraiment vécue sur terre, exercée dans un monde réel. Ce n'est pas virtuel, cette justice de Dieu-là. Ça a été vécu dans un monde réel par une personne réelle, le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu vivre cette justice parfaite. Ce n'est rien de moins que la conformité parfaite à la loi de Dieu sur une période de 33 ans par le Fils de Dieu, qui est devenu un être humain qui a vécu une vie de parfaite obéissance. L'accomplissement parfait de la loi démontre une justice parfaite. Hey, si on n'avait pas eu du Seigneur Jésus-Christ, on serait-tu fait à l'os? On n'aurait aucune espérance parce que on serait condamné. Et la justice de Jésus-Christ est autant une réalité historique que le fait du péché. Je répète, la justice de Jésus-Christ est autant une réalité historique que le fait du péché. Puis, dans le livre aux Romains, les deux sont mis en contraste l'un envers l'autre, la justice et le péché. Le péché d'Adam versus la justice de Christ. Tournez avec moi dans Romains 5, on n'est pas tellement loin. Romains 5, ça je ne l'ai pas à l'écran malheureusement. Romains 5, verset 12. Et tout le long des textes qu'on va lire, on a ce contraste entre la, la justice de Christ et le péché d'Adam. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu, le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup? Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Quel contraste! Le théologien écossais du 19e siècle, George Smeaton, a écrit ceci: « L'apôtre Paul montre les deux grandes contreparties du péché et de la justice comme des réalités égales. Autant le péché, c'est une réalité, autant la justice de Dieu est une réalité. L'une comme étant la ruine du monde et l'autre sa restauration. L'un est un fait complété aussi bien que l'autre. Ils sont les seuls deux grands faits dans l'histoire du monde. » C'est quoi les deux faits marquants de l'histoire du monde? C'est le péché puis la justice de Dieu. Le péché de l'homme puis la justice de Dieu, par Jésus-Christ. Et ils se confrontent l'un et l'autre. Et c'est important de réaliser que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli parfaitement la loi de Dieu. À la fois dans ses exigences, puis à la fois dans sa pénalité. Je répète, c'est important de réaliser que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli parfaitement la loi de Dieu, 100%, à la fois dans ses exigences et à la fois dans sa pénalité. C'est pour ça qu'il s'est ramassé sur une croix. C'est pour ça qu'il a donné sa vie, qu'il a versé son sang. Parce que c'est ce que la loi exigeait. Jésus-Christ a fait ce qu'Adam a échoué de faire. Rendre une obéissance parfaite à la loi de Dieu. Ensuite, par sa mort, il a complètement payé la pénalité d'une loi brisée. Ainsi, du point de vue de l'obéissance à la loi et du paiement de la pénalité pour le brisement de la loi, il a parfaitement accompli la loi de Dieu, dans tous les sens. Par sa vie, il a accompli la justice. Par sa mort, il a payé le prix du péché. C'est-tu couvert? 100%. Par conséquent, quand Dieu nous justifie ou nous déclare juste, parce que c'est ce que veut dire nous justifier, hein? Dieu nous déclare juste, il ne crée pas une sorte de fiction légale appelant quelque chose de juste ce qui ne l'est pas. Plutôt, il nous déclare juste sur la base de la réelle justice accomplie de Jésus-Christ, laquelle nous est imputée ou créditée à travers la foi. C'est de la vraie justice qui nous est imputée. C'est celle que Christ est venu accomplir. Ce n'est pas de la fiction. Un autre Écossais, Robert Haldane, qui a vécu de 1764 à 1842, auteur d'un commentaire magistral sur Romains, a écrit ces mots au sujet de la justice de Christ. Et je le cite. « À cette justice doit être à toujours diriger l'œil du croyant. Sur cette justice doit-il se reposer? Sur cette justice doit-il vivre? Sur cette justice doit-il mourir? Sur cette justice doit-il comparaître devant le tribunal de Christ? Sur cette justice doit-il paraître pour toujours en présence d'un Dieu juste? » Fin de la citation. La justice de Christ qui m'est imputée, qui m'est portée à mon compte lorsque je place ma foi en lui. C'est ça la conversion. Et la justice de Dieu... Ça, c'est important de le dire. La justice de Dieu, quand elle nous est imputée, quand elle nous est créditée par la foi, elle l'est pour toujours. Je suis désolé pour ceux qui pensent qu'on peut perdre son salut, c'est une fausse doctrine incroyable, terrible même. Quand on est sauvé pour toujours. Puis quand on est imputé à justice, on l'est pour toujours. Du jour où nous plaçons notre confiance en Christ comme notre Sauveur jusque durant toute l'éternité, nous paraissons devant Dieu revêtus dans la justice de Christ. Une fois qu'on est sauvé, une fois qu'on reconnaît notre péché, qu'on est pécheur, qu'on place notre confiance en Jésus-Christ qui est mort à la place, sur la croix, à ma place, à ta place. Et lorsqu'on est de nouveau, on est revêtu de sa justice à toujours. C'est ce qui nous permet de nous présenter devant lui. C'est ce qui nous permet de venir prendre le repas du Seigneur le dimanche matin, sinon on ne pourrait pas, sans être revêtu de cette justice-là. Ésaïe 61:10, j'aimerais qu'on aille voir ce texte dans l'Ancien Testament, gardant votre doigt dans Romains, mais Ésaïe 61:10. Ésaïe 61:10. Je me réjouirai en l'Éternel. Quelle joie d'être sauvé en passant. Quelle joie d'être en Jésus-Christ. Hein, quelqu'un a déjà dit un chrétien triste est un triste chrétien. Un chrétien, on est les seuls sur la terre qui ont une raison d'être joyeux. Tu sais, dans le monde, c'est sûr qu'on est joyeux à un moment donné parce qu'on prend toutes sortes d'affaires. Mais une fois que tu n'es plus sur les toutes sortes d'affaires, tu es moins joyeux. C'est. Mais quelqu'un qui est chrétien, on est les seuls qui pouvons avoir cette joie véritable. Mais c'est pour ça que Ésaïe va dire, « Je me réjouirai en l'Éternel. » J'espère que tu te réjouis en lui. Si c'est d'autres choses qui te réjouissent dans ta vie quotidienne, pose-toi des questions. Remets tes priorités à bonne place si tu es croyant. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, mais pour quelle raison être joyeux? Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert d'un manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. Il m'a revêtu de son salut. Il m'a revêtu du manteau de la délivrance, de sa justice, qu'il m'a imputé parce que lui, il a parfaitement accompli cette justice à ma place. Tu sais, je veux dire, on n'a pas grand-chose à faire à part de croire. Là. Excusez-moi, je ne suis pas choqué. Mais... On n'a pas d'autre chose à faire que de croire. C'est extraordinaire. Puis, les gens veulent tellement faire toutes sortes d'affaires pour aller au ciel, puis c'est tellement facile, dans le fond. Reconnaître que je suis pécheur, puis reconnaître que Christ a tout fait. Ésaïe 61:10, quel beau verset. Cette position dans la justice de Christ, en passant, n'est jamais affectée d'aucune façon par notre performance d'une bonne ou d'une mauvaise journée spirituelle. Je le répète. Cette position dans la justice de Christ n'est jamais affectée d'aucune façon par notre performance de bonne ou de mauvaise journée. Merci Seigneur. Quelle grâce, quelle perfection, quel salut complet. Est parfait. Mais à moins que nous apprenions quotidiennement à vivre par la foi en sa justice, notre perception de notre position devant Dieu va toutefois varier selon notre performance de bonne ou de mauvaise journée. Alors, c'est pour ça qu'il faut se rappeler l'Évangile de grâce au quotidien. Christ a parfaitement payé le prix. Christ a parfaitement accompli la loi et il m'a revêtu de sa justice. Alors, ça ne dépend plus de ma performance au quotidien. Ça dépend de sa grâce tout le temps. Troisième élément de cet évangile de grâce, cette justice de Dieu, parce que c'est beau de savoir qu'elle existe, mais elle est reçue comment? Cette justice de Dieu est reçue par la foi en Jésus-Christ. Verset 22a, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Ça n'a même pas besoin de commentaire. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. La foi, dans le fond, c'est la main par laquelle la justice de Christ est reçue. Elle est disponible, elle est accomplie, elle est réalisée, elle est réelle. Elle a été vécue par Christ sur terre. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Rien d'autre, comme je l'ai dit tantôt, que de croire puis de la saisir. Par la foi. Puis la foi implique qu'on renonce complètement à nous confier dans notre justice propre et qu'on est entièrement dépendant de la justice et de la mort parfaite de Jésus-Christ. C'est ça que ça implique. On pourrait citer le verset par cœur, Actes 16, 31. « Crois au Seigneur Jésus. » Qu'est-ce qui va arriver? Tu sais, je veux dire, tantôt on parlait des bons vieux cantiques qui disent tout en une phrase. On l'a tout ça. Actes 16, 31. Je me rappelle, quand j'étais jeune, il y avait des panneaux, hein, des fois. Des gros panneaux d'évangélisation. À la tuque, on avait ça. Il y en a qui se mettaient des gros panneaux sur le balcon, des chrétiens, zélés dans les années 60, 70. Hein. C'était les versets. « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. » C'est assez simple comme message, c'est ça. Puis qu'est-ce que ça veut dire, croire au Seigneur Jésus? C'est que nous devons croire qu'en tant que fils de Dieu, qui a revêtu de notre humanité, c'est de croire qu'il a vécu une vie parfaite, qu'il est ensuite mort sur la croix pour nos péchés. C'est ça, croire au Seigneur Jésus-Christ. Ce message est appelé l'Évangile, ce qui veut dire la bonne nouvelle au sujet de Jésus-Christ. C'est ça, l'Évangile. Et Jésus, lui-même, doit toujours être l'objet de notre foi. Vous allez dire, c'est assez évident. Non, mais regardez. Parce qu'on dit parfois que nous sommes sauvés par la foi seule, voulant dire sans aucune œuvre. C'est vrai qu'on est sauvé par la foi seule, sans aucune œuvre. Mais cette expression peut induire à l'erreur comme si la foi elle-même avait quelque sorte de vertu que Dieu respecte. Hein? Quand je dis, je suis sauvé par la foi seule, c'est comme si c'est la foi qui fait foi de tout. Ce serait plus exact de dire que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu à travers la foi. Parce que la foi, je le dis, c'est simplement la main qui reçoit le don de Dieu. Et Dieu, à travers son esprit, ouvre même notre main pour recevoir le cadeau. Puis là, on pourrait tomber dans l'extraordinaire doctrine de l'élection, mais on va laisser ça à Jean-Luc, meilleur que moi là-dessus. C'est Dieu qui, à travers son esprit, ouvre même notre main pour recevoir le cadeau. Cette doctrine de croire, cette doctrine de mettre notre confiance en Jésus-Christ seul pour le salut de quiconque, c'est la vérité de base de l'Évangile. Hein? Cette justice de Dieu est reçue par la foi en Jésus-Christ. Sans son acceptation, il n'y a aucun salut. Alors, j'ai beau savoir ça intellectuellement ce soir, que Jésus-Christ est venu accomplir la justice parfaitement, tant dans les exigences de la loi que de la pénalité. J'ai beau savoir ça intellectuellement, j'ai beau savoir que je ne peux pas être sauvé par l'observation de la loi parce que je suis pécheur, imparfait, mais je peux repartir chez nous puis rien qui change. Je reste perdu, je reste condamné en enfer pour l'éternité. Alors, tant que je ne tends pas la main puis je ne saisis pas cette vérité-là, il n'y a pas de changement. Puis moi, je vous connais pour plusieurs, je ne vous connais pas toutes. Puis même si je vous connais pour plusieurs, je ne connais pas votre intérieur. Moi, je trouvais ce matin, au pas du Seigneur et grand-mère, on a parlé du sujet assez extraordinaire de l'omniscience de Dieu. Hein, le psaume 139 qui est extraordinaire là-dessus en passant. Puis là, tu tombes dans Jean 1, où Nathanaël s'approche du Seigneur Jésus, puis Jésus, il disait, hey, voilà un vrai Israélite en qui il n'y a point de fraude. Tu sais. Pour dire ça, il fallait qu'il sache ce qui se passait dans le cœur de Nathanaël. Puis en disant ça, il n'était pas en train de dire que Nathanaël était parfait, parce que Nathanaël n'était pas parfait, il avait pas mal de préjugés dans sa vie. Il dit, peux-tu arriver quelque chose de bon de Nazareth? C'est pas trop joli à dire. Là, tu sais. Mais il était authentique. Le Seigneur disait son cœur. Puis le jackpot, c'est quand il dit, comment ça, tu me connais? Mais là, je t'ai vu sur le figuier. Tu n'étais pas à côté de moi, comment tu m'as vu? Tu sais, je veux dire, l'omniscience de Dieu, l'omniscience de Christ. Et donc, ce soir, je vous connais pas, puis je vous connais certains d'entre vous comme étant chrétiens, mais au bout du compte, c'est Dieu, lui, qui sait vraiment si t'es chrétien. C'est Dieu, lui, qui sait vraiment si t'as fait ce pas de foi un jour. Il y en a qui vont dire, ouais, mais je l'ai baptisé, je suis correct. Ouais, mais... On est connu du monde qui ont fait profession de foi, qui sont fait baptiser, puis où sont-ils? Hein, ils n'ont pas porté les fruits d'une repentance véritable. Dieu nous connaît. Et il faut avoir saisi par la foi cette justice qui nous est imputée, qui nous est proposée. Et comme je le disais, moi, je ne sais pas si tu as fait ce pas de foi-là dans ta vie. Fais-le parce que tu ne changeras pas. Ça ne changera rien. Tu restes dans la même situation. Sans son acceptation, il n'y a aucun salut. Puis tout croyant, par définition, accepte ce fait, mais c'est important de réaliser que nous n'avons pas seulement été sauvés par la foi à un point particulier dans le temps, mais que nous devons vivre par la suite par cette même foi en Jésus-Christ tous les jours de notre vie. On ne peut pas être sauvé par la foi, puis après ça, commencer à vivre par nos œuvres. On est sauvé par la foi, il faut continuer à vivre par la foi, par sa grâce. Encore là, un verset qu'on pourrait lire par cœur, mais cité par cœur, mais on cite souvent le début du verset, mais Galates 2, 20b, sans tourner, va dire, « Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, merci Seigneur, et qui s'est livré pour moi. » C'est-tu de l'amour, ça? Intéressant, il m'a aimé, mais il s'est livré pour moi. Puis le contexte de Galates 2, 20, c'est la justification. Soit être déclaré juste sur la base de la justice de Christ. Puis quand Paul a écrit qu'il vivait dans la foi au Fils de Dieu, il n'était pas en train de référer dans ce passage à la dépendance sur Christ pour de la force spirituelle, comme c'est le cas dans Philippiens 4, 13, quand il va dire qu'il peut tout par celui qui fortifie. Non, dans Galates, il réfère à une dépendance sur lui pour sa position juste devant Dieu sur une base quotidienne. Dépendance au quotidien sur la justice de Christ, sur sa grâce. On n'est pas venu au Seigneur par nos œuvres, puis on ne peut pas rester sauvé par nos œuvres. Nos œuvres ont manifesté un salut véritable. Mais faisons attention que, subtilement, on tombe et on verse vers une vie chrétienne de performance, en oubliant la performance de Christ, qui, elle, a été parfaitement accomplie à notre place. On va commencer rapidement, oui, j'ai le temps pour le quatrième point. Encore là, mauvaise nouvelle pour vous, je suis là dans deux semaines, mais on va compléter ce message-là, mais on a le temps de voir ensemble le quatrième point. Ce quatrième élément de l'Évangile de grâce. Cette justice est disponible à tous sur la même base. Puisque tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Quatrième élément de l'Évangile de grâce. Pourquoi verset 22b, verset 23, on dit qu'il n'y a pas de distinction? Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le plan de Dieu pour le salut traite tout le monde sur le même pied d'égalité. Pourquoi? Parce qu'on est tous pécheurs. On est tous dans le même bateau. Surtout qu'il y a un beau petit bébé qui vient au monde, il doit être le plus beau petit bébé au monde, il est pécheur. On embarque dans la barque du péché, d'une humanité pécheresse. Et c'est pour ça que le plan de Dieu pour le salut traite tout le monde sur le même pied d'égalité parce qu'on est tous pécheurs. Ça ne veut pas dire que Dieu ne remarque aucune distinction dans le sérieux, dans la gravité de différents péchés, mais tout péché aussi petit, entre guillemets, aussi insignifiant qu'il peut nous paraître, entre guillemets, c'est une violation de la sainte loi de Dieu. Il nous rend sujet à la pénalité de la mort. Le moindre péché. Et c'est déjà une grâce incroyable que je ne suis pas foudroyé à chaque instant de ma vie ou presque, dans le sens qu'à chaque jour de ma vie, chaque fois que je pêche, je devrais être foudroyé par Dieu. Non. Il a payé le prix. Une personne peut être un pécheur relativement décent et un autre peut être un pécheur flagrant, mais les deux sont pécheurs. Puis la loi de Dieu n'admet aucun degré d'échec. Je vois Laval en arrière, un professeur, ou un ancien professeur, je ne sais pas si tu n'enseignes plus, pas Laval, un jeune retraité. Bon, supposons Laval. Vous savez, on va donner un exemple, Laval puis moi, supposons. Si 60 % c'est la note de passage pour un examen à l'école, supposons Laval, lui, puis moi, on passe un examen, puis la note de passage est 60 %. Laval, il est meilleur que moi, il a eu 40. Puis moi, j'ai eu avec un petit 20 %. T'sais. Je viens de journaliste quand même. Mais je peux-tu vous annoncer quelque chose? Les deux, on a échoué, là. Tu sais, Laval, il n'aura pas à se vanter, hein, j'ai plus haut que toi. Mais là, t'as échoué toi aussi. T'sais. On est les deux dans le même bateau. Là, hein, ma note d'échec est supérieure à la tienne. T'as échoué. Échoué. La seule chose qui compte, c'est qu'on ait échoué tous les deux l'examen. Le but premier de la méthode de salut de Dieu à travers la mort de Christ, c'est de nous délivrer de la culpabilité. Quoique tous les gens ne soient pas coupables également, nous sommes coupables, toute la gang. C'est pour ça que Paul va dire qu'il n'y a aucune distinction. En d'autres mots, j'aime bien cette expression, le sol est nivelé au pied de la croix. Au pied de la croix, il n'y a aucune distinction. Petit pécheur, grand pécheur, gros pécheur, moyen pécheur, pécheur de temps en temps, pécheur tout le temps. Le sol est nivelé au pied de la croix, on est tous sur un pied d'égalité. On est tous coupables. Il n'y a point de distinction. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tout ce qu'on donne en enfer. Justement, en plus. C'est juste d'être condamné en enfer. C'est la seule affaire qu'on mérite, d'ailleurs. On ne mérite rien d'autre, Satan, nous autres. On mérite l'enfer. Et cette vérité-là, cette autre vérité de l'Évangile de grâce qu'on retrouve dans ces versets 22-23, ça élimine toute place à la comparaison de nous-mêmes avec les autres qui peuvent nous apparaître plus pécheurs, ou du moins qui nous semblent moins saints qu'on l'est. Hein? Ça évite toute comparaison, ça. Ainsi, si nous devons vivre par l'Évangile chaque jour, toute tendance à nous comparer avec d'autres croyants, pour ne pas dire avec des incroyants, devrait être mise de côté. Plutôt, nous devons nous mesurer nous-mêmes contre le standard parfait de Dieu. Puis là, on prend notre trou, hein, dans ce temps-là. Puis on devrait alors confesser au quotidien qu'on a péché et qu'on a été privé de la gloire de Dieu. Rappelons, et ne perdons jamais de vue, puis rappelons-nous tout le temps d'où qu'on vient. Hein. Qui on était avant? Où le Seigneur est venu nous chercher? Puis une fois sauvés, comment encore on est imparfait? Puis comment le Seigneur est patient? Puis comment le Seigneur est gracieux? Puis... Alors, comment ça se compare entre nous autres? Là? Ouais, lui, l'autre. Tu sais, des fois, dans les églises, on est fort là-dessus. Puis là, on se console parce que, tu sais, ouais, ben, lui est pire que moi, l'autre est pire que moi. Faisons attention. Ce soir, on a vu quatre éléments de l'Évangile de grâce. Il en reste encore d'autres à voir. Comme je le disais, Dieu voulant, dans deux semaines, j'aurai le plaisir d'être avec vous autres. J'espère que vous aurez le plaisir d'être là. Mais on va terminer par un mot de prière. Seigneur Dieu, merci pour ces éléments de base qu'on vient de voir ce soir sur l'Évangile de grâce dans ce magnifique texte de Romains 3. Père, c'est là qu'on voit, Seigneur, que c'est inspiré par ton esprit et pas un homme par lui-même qui aurait pu écrire ça. D'une manière aussi condensée, aussi complète. En quelques versets, tout ton évangile est là-dedans. Le fait qu'on est condamné par la loi, qu'on ne peut pas l'observer, le fait qu'on est tous pécheurs, que c'est par la foi qu'on est justifié. On est tous pécheurs devant toi. On a tous besoin de cette même grâce. Puis Père, comme je l'ai dit tantôt, Seigneur, toi, tu connais les cœurs de ceux qui sont ici ce soir. Tu connais ceux qui t'appartiennent et ceux qui ne t'appartiennent pas. J'espère que tout le monde t'appartient ici. J'espère que tout le monde a fait ce pas de foi, qu'a saisi cette justice manifestée, réalisée, complétée, accomplie parfaitement par ton Fils. Seigneur, ce n'est pas le cas que cette personne-là ce soir puisse s'avancer vers toi, se donner à toi, croire en toi, et reconnaître qu'il est pécheur et mettre sa confiance dans seulement le sacrifice de Christ à la croix du calvaire. Mort et ressuscité, parce qu'il a aussi parfaitement accompli tout ce que le Père exigeait à ma place. Père, merci pour ta parole qui est si riche, si dense. C'est ta grâce qui est si grande parce que ça a commencé par la grâce, ça continuera dans l'éternité par ta grâce. Et que dans nos vies, on vive cette grâce-là. Que dans nos mauvaises journées, qu'on ne se surculpabilise pas. Et que dans nos bonnes journées, on ne se s'enorgueillisse pas non plus de ça. Garde-nous en toi, dans ta grâce. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. Et s'il y en a qui veulent dire Ivory, je le sais ici, mon ami.